À l'écoute de Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Joanne Burgel.
Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du journal En français facile. Pour le présenter avec moi ce soir, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Joanne, bonsoir à tous.
En Turquie, 10 ambassadeurs désormais déclarés persona non grata, c'est-à-dire qu'ils devront rentrer dans leur pays. Le président turc n'accepte pas leur mobilisation en faveur de l'opposant Osman Kavala.
À quelques jours d'une nouvelle audience à Londres concernant l'extradition de Julian Assange, réclamé par les États-Unis, des soutiens du lanceur d'alerte se sont réunis dans la capitale britannique.
Et puis à Lille, dans le nord de la France, la candidate socialiste à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, a tenu un premier grand meeting. Elle a présenté ce qu'elle appelle son projet de reconquête.
Un journal.
Le journal en français facile.
En français facile.
Mais d'abord, avant de développer ces titres, Sylvie, vous en parliez il y a encore quelques minutes dans Afrique Soir.
Oui, c'est le clap de fin pour le FESPACO, la grande fête du cinéma africain, le festival panafricain de la télévision également de Ouagadougou.
Nous retrouvons Guillaume Thibault en direct de Ouagadougou, capitale du Burkina. On connaît maintenant, Guillaume, le sacre suprême, à savoir l'étalon d'or de Yenanga.
Exactement, et le lauréat de ce FESPACO 2021, c'est donc le réalisateur somalien Ahmed Kadar pour son film « La femme du fossoyeur », un film tourné en 2021. L'histoire, Guled et Nasra, c'est un couple amoureux, ils vivent dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l'équilibre de cette famille est menacé. Pourquoi ? Parce que la mère de famille est malade, son mari, fossoyeur, n'arrive pas à gagner assez d'argent pour payer les frais de santé. Ce film relate cette bataille d'un homme pour sauver sa compagne, pour garder sa famille unie. Le réalisateur n'était malheureusement pas présent ce soir à Ouaga. Il gagne donc ce trophée prestigieux, l'étalon de Yenanga, le plus beau trophée du cinéma africain, a déclaré le président du jury du FESPACO 2021, Abderrahmane Sissako.
Guillaume Thibault en direct de Ouagadougou. Et vous y reviendrez bien sûr tout à l'heure, Sylvie, à partir de 00h30, heure de Paris, dans la dernière édition d'Afrique Soir.
Dans l'actualité encore, le président turc qui met ses menaces à exécution.
Oui, Recep Tayyip Erdogan avait prévenu cette semaine que les ambassadeurs de 10 pays, dont la France, risquaient d'être expulsés. Ankara reproche à ses diplomates d'avoir appelé à la libération de l'opposant et de l'homme d'affaires Osman Kavala. Des consignes ont été données aujourd'hui pour que les 10 ambassadeurs soient déclarés persona non grata. En d'autres termes, leurs pays vont devoir les faire rentrer à la maison. Cette décision montre à quel point les relations entre Ankara et l'Occident sont devenues difficiles. Correspondance à Nandlower.
États-Unis, France, Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Danemark, Suède, Norvège, Canada et Nouvelle-Zélande. Sur ordre de Recep Tayyip Erdogan, les représentants de ces 10 pays ne sont plus les bienvenus en Turquie. Dans une lettre commune, ils avaient déploré la détention depuis 4 ans du mécène Osman Kavala, accusé d'avoir financé les manifestations anti-gouvernementales du parc Gezi en 2013 et d'avoir joué un rôle dans le coup d'État manqué de 2016. Où croyez-vous être ? Ici, c'est la Turquie, pas un État tribal, a lancé le président turc devant une foule de partisans. Avant d'ajouter, toujours à l'adresse des ambassadeurs, s'ils ne comprennent pas la Turquie, ils vont la quitter. Cette décision inédite pour ce pays membre de l'OTAN et toujours candidat à l'adhésion à l'Union européenne montre les limites de l'apaisement avec l'Europe et les États-Unis initié cette année par le pouvoir turc. Elle survient surtout à un moment où Tayyip Erdogan fait vibrer la corde nationaliste face aux difficultés de l'économie et à l'érosion de sa base électorale. Dans la même veine, le chef de l'État turc a menacé plusieurs fois ces derniers jours de mener une nouvelle incursion militaire en Syrie. Anne-Laure Istanbul, RFI.
Denis. Et puis, dans l'actualité également, Israël qui a classé 6 ONG palestiniennes sur la liste des organisations terroristes. Hein. C'est une décision, Joanne, prise sans avoir consulté l'allié américain.
Et l'administration de Joe Biden compte demander des explications au nouveau gouvernement israélien. Sur la liste noire figurent désormais des organisations de défense des droits humains accusées d'être liées au Front populaire de libération de la Palestine. Palestine un groupe armé à tendance marxiste. La décision israélienne a déclenché de nombreuses critiques. Ragai El-Had est le directeur de B'Tselem, une ONG israélienne qui défend les droits humains dans les territoires occupés.
La décision du soi-disant gouvernement israélien de changement de qualifier de terroristes ces organisations palestiniennes des droits de l'homme n'est pas purement déclarative. C'est un acte digne de régime totalitaire dont le but évident est de fermer ces organisations. Mais la guerre n'est pas la paix et l'ignorance n'est pas une preuve de force. Ce n'est pas un gouvernement de changement, mais plutôt de continuation d'une longue tradition d'apartheid. B'Tselem se déclare solidaire de ses collègues palestiniens. Nous sommes fiers du travail en commun au long des années et nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie.
Des propos recueillis par Michel Paul.
Une marche de soutien à Julian Assange était organisée aujourd'hui à Londres.
Cela avant une nouvelle audience qui doit se tenir la semaine prochaine. La justice britannique va réexaminer en appel la demande d'extradition par les États-Unis du fondateur de Wikileaks. Le lanceur d'alerte est en prison depuis 2 ans maintenant, et cela sans avoir été jugé. À Londres, Sidonie Gaucher.
Les mouvements de soutien à Julian Assange battent le pavé londonien, sur le parvis de la BBC, et mercredi et jeudi prochain pour l'audience en appel devant la Haute Cour. La semaine prochaine est décisive pour le fondateur de Wikileaks. En attendant, journalistes, militants et politiques, dont Jeremy Corbyn, se rassemblent autour du tribunal populaire de Belmarsh pour demander à nouveau au gouvernement américain de suspendre les poursuites. Rappel des faits. En janvier dernier, Julian Assange avait remporté une première victoire puisque la juge britannique Vanessa Baretzer avait refusé son extradition en raison de sa santé mentale. Mais elle avait également refusé sa libération. Cela fait aujourd'hui 2 ans que le lanceur d'alerte est en prison dans l'est de Londres alors qu'il n'a pas été condamné. Si la demande d'extradition est finalement accordée la semaine prochaine, la peine de prison peut aller jusqu'à 175 ans pour espionnage. Mais si la Cour d'appel confirme la décision prise en janvier dernier, il sera alors très difficile pour les États-Unis de continuer à demander son extradition. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
La COP26 n'a pas encore commencé, Joanne, mais l'heure est déjà au pessimisme.
Le président britannique du prochain sommet sur le climat juge qu'il sera plus difficile de parvenir à un accord mondial qu'à Paris. C'était en 2015. La COP26 s'ouvrira dans une semaine à Glasgow et le gouvernement britannique aura alors 15 jours pour convaincre 200 pays d'en faire davantage pour réduire les émissions de CO2. L'objectif est toujours de contenir le réchauffement planétaire en dessous d'un degré et demi.
En France, à 6 mois de l'élection présidentielle, Anne Hidalgo a tenu son premier grand meeting à Lille.
Officiellement investie ce samedi, la candidate du Parti Socialiste a présenté ce qu'elle a nommé un projet de reconquête devant 1700 militants. La maire de Paris a déroulé les grandes lignes de son projet et quelques propositions concrètes, mais elle a surtout voulu prouver qu'elle était une candidate sérieuse. Dans les sondages, elle est créditée de 4 à 7% des voix. Voici le reportage de notre envoyé spécial à Lille, Aurélien Devernois.
Je suis prête ! Nous sommes prêts !
La voix déraille parfois un peu, mais la conviction semble enfin se faire entendre. Appelez-la désormais Anne avec un grand E comme école, État, écologie, Europe et surtout égalité.
Je veux être la première présidente de l'histoire de France parce qu'il est temps d'accomplir une grande avancée, celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment au travail.
Alors que ses concurrents à gauche commencent à distiller leur programme, Anne Hidalgo a souhaité frapper fort avec des propositions concrètes.
En instituant un défenseur de l'environnement, un ISF climatique pèsera sur les ménages les plus aisés, dont d'ailleurs le patrimoine émet le plus de carbone.
Objectif, s'afficher comme une candidate d'une gauche regardant vers l'avenir, mais en assumant son passé.
Je pense bien sûr à Lionel Jospin, à François Hollande et aussi bien sûr à Ségolène Royal, première femme candidate de notre famille politique.
Car Anne Hidalgo, qui se voulait une candidate libre des partis, a dû finalement se rendre à l'évidence. Elle sera bien celle du seul parti socialiste. Aurélien Devernois, Lille, RFI.
Et c'est ainsi que se termine cette édition de votre journal en français facile. Merci à vous, Sylvie Biruet.
Avec plaisir, Joanne.
Il est maintenant 22h10 à Paris.
Le Club RFI,